Bien, alors je vais commencer aujourd'hui par des questions de vocabulaire, de base. Et puis alors, donc le même avec moi, vous avez pour match, mardi, mercredi et jeudi. Alors dès mardi, on commencera le texte là. Alors d'ici là, je vous demanderai de relire attentivement toutes les petites choses, on va avoir besoin de les lire. Pour moi, je serai par la chambre de l'Ishkati. Ensuite, je vais le faire. Mais pour le moment, on s'en fout, c'est de l'idée. Bon, alors on va commencer par les mots de la Haggadah. Le mot de la Haggadah en hébreu signifie le récit. Quelle est la racine?
La
Haggadah. Alors, vous relirez au verset qui dit « Vehigatta l'imcha v'yamadevor » Donc, Seigneur le verront déjà aujourd'hui, je pense, des différents moments de commémoration, mais le principal moment, c'est le récit lui-même. Il s'appelle donc la Haggadah de Pessah. En hébreu, Haggadah Shel Pessah. Je ne comprends pas avec un autre mot que vous connaissez, comment on peut se donner le mot Avec
légende.
Aleph. Bon, justement, Haggadah avec Aleph, le mot de légende, c'est un sens très tardif. Ça a le même sens que le mot de Haggadah avec Hé, mais c'est le mot aramé. Haggadah en araméen, hein, vous pouvez peut-être parfois avec un R après vous montrer avec un Aleph. C'est exactement Haggadah en hébreu. Le mot de légende, c'est un sens vraiment très tardif. Ça a passé par la traduction dans le langage assimilé de l'Occident. Il s'agit de légende. Vous avez remarqué, quand on étudie un récit, soit de la Torah, du Mikra, soit du Midrash, que ce n'est pas une légende dans le sens habituel du terme. D'ailleurs, alors évitez autant que possible, c'est du mauvais goût, de traduire Haggadah par légende. Vous avez appris en bibliographie qu'il y a la Haggadah et la Halakha. Alors, est-ce que vous avez une vraie idée maintenant que vous avez appris un peu qu'il y a la Halakha, puis le reste est de légende. Donc, dans le sens d'un Torah du dimanche matin. Vous comprenez tout. De la même manière, dans la Torah chez Birta, il y a les Sipourim, les récits et les mitzvot. Dans la Torah chez Béalpé, il y a les Haggadot et les Habakhot. C'est pas la même. Alors, si vous dites que la Haggadah, ça veut dire une légende, ça voudrait dire que les Sipourim de la Torah, c'est une légende. Ça voudrait dire que nous sommes des personnages légendaires. Ça a beaucoup de sens, ce mot de légende. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va prendre d'abord l'étymologie en français. Ça vient d'un mot latin, legendum, qui signifie micra. Ça veut dire ce qui est donné à être lu. Ça, le sens étymologique de légende. Mais bon, ça veut dire originellement ce que nous avons dans le mot de Mikra. Ensuite, quand, rappelez-vous le premier cours que vous avez au début de l'année, quand les sages eux-mêmes n'ont plus compris leur propre sagesse, vous rappelez tout ça, ils ont commencé à philosopher, alors ils ont réputé les récits qu'ils ne comprenaient plus comme étant des légendes. Dans le sens moderne. Et puis ce mot a pris plusieurs bifurcations. Il y a un sens positif, un sens négatif. Mais ce sens moderne du terme de légende ne peut en aucun cas traduire Haggadah. Je pense que c'est clair. Haggadah, ça veut dire un récit qui a pour but d'expliquer. Alors si jamais vous devez un jour, dans une composition littéraire, retenir le mot français de légende, employez-le dans son sens étymologique. Ça veut dire quelque chose qui était destiné à être lu, et pas quelque chose qui n'a aucun sens, qu'on a inventé pour faire semblant de dire quelque chose qui n'a pas de sens. Les gens. Et là, bon, vous voyez les erreurs qu'on peut faire en parlant. Top. Et il s'agit effectivement du récit de ce qui s'est passé au temps de la sophologie. Mais on a retenu ce mot parce que c'est relié au verset. La lecture, le récit de la Haggadah. Obéit à cette mitzvah de ce verset-là, Veikata le Mincha, Bayon, Bahou, le Pont, Bahou, Zekrasa, Hachem, Ni, Zekri, et Mitzvah. Donc, alors je vais d'abord donner deux thèmes sur ce verset, on aura souvent à le réutiliser, mais retenez bien la référence. D'abord, c'est le fait que la Torah prévoit qu'au moment de la commémoration de l'événement de Pessah, il faut expliquer à l'enfant de quoi il s'agit. Bien sûr, la Torah elle-même le prévoit. Enfin, si nous avons touché à ce point-là déjà dans les autres cours. C'est-à-dire qu'elle sait à l'avance qu'il est normal que la génération des enfants, et on le relira un autre verset encore, qui chantera le Kramapharo, que la génération des enfants doit interroger les parents pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ? Je veux dire que non seulement il n'y a pas de réticence à interroger, mais il y a une mitzvah d'expliquer. Nous aurons d'ailleurs plus que cela, il y a une mitzvah pour l'enfant de questionner ses parents. Il y a une mitzvah pour les parents d'expliquer aux enfants. Il y a un problème pédagogique auquel on touchera tout à l'heure, mais répondez d'abord, essayez de répondre d'abord à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah prévoit que l'enfant, et ici ça ne veut pas dire le petit, nous verrons tout à l'heure qu'il y a 4 sortes d'enfants, c'est un problème. Ça veut dire la génération suivante. Oui, en tant que bébé, je veux dire, qui sont sortis d'Égypte, les parents, après avant, sont sortis d'Égypte. Bon. Et qui doit interroger, à qui on doit expliquer les enfants, les bambins. Alors entendez la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah prévoit que le Ben doit interroger et que le Ab doit expliquer? Veikata le mitra, c'est une mitzvah. Pourquoi?
La transmission se passe.
Et pourquoi il faut que la transmission se passe?
C'est l'histoire.
C'est de cette manière expliquée.
Hein?
Exactement. Parce qu'il s'agit d'un événement historique. Et ceux qui n'ont pas assisté ne peuvent pas comprendre, par définition. Il y a une nécessité d'expliquer ce qui s'est passé. Et c'est une mitzvah positive. Et nous voyons que c'est une des mitzvahs centrales de Pessah. C'est-à-dire, si cette explication n'est pas donnée, la transmission ne se fait pas. La tradition ne se fait pas. C'est-à-dire, la tradition juive n'est pas une tradition de se réinventer par la raison ou par l'imagination. Il y a des traditions religieuses qui prennent la raison ou l'imagination comme véhicule de la découverte de la vérité, de la signification de l'homme. Ce n'est pas le cas de la tradition, c'est une mémoire. Bon, avec la raison ou l'imagination, on peut arriver à n'importe quoi. N'importe quoi de cohérent, de valable en soi, comme religion humaine. Mais on va retrouver une tradition qui est basée sur l'événement historique, sinon par la mémoire. On ne peut pas réinventer ce qui s'est passé. C'est un peu schématique ce jeu là, parce qu'il y a quand même des nuances à apporter. Si, effectivement, il y a une hérédité suffisante, je ne sais pas exactement ça, une envergure de l'hérédité suffisante, alors on peut avoir le pressentiment de ce dont il a pu s'agir, et on est prêt à écouter l'explication, on peut nuancer un peu, mais dans la formule simple, je pense que c'est clair. Énormément de juifs aujourd'hui, ils sont intelligents, capables d'imagination, essayent de retrouver le judaïsme par eux-mêmes. Et ils arrivent à des livres, ils écrivent, mais c'est pas le judaïsme. Comprenez ce que je veux dire. Il y a une filiation historique, mais retenez surtout, parce que vous allez voir que c'est un terme qui va beaucoup jouer, le terme de mémoire. C'est du mémoire. D'ailleurs, l'objet de l'étude, c'est de transformer la mémoire en savoir. Mais il faut qu'il y ait un contenu pour que l'étude soit un objet. S'il n'y a pas de contenu de mémoire, l'étude tourne à vide. En tout cas, ce dont il faut surtout se méfier, c'est de voir qu'on peut retrouver, par le raisonnement, par l'imagination, ce qui a pu se passer. S'il n'y a pas de souvenir de l'événement, la foi n'a pas de fondement. Il manque encore le fondement. Qu'il s'est passé ceci. Bon, ça vous l'avez retrouvé par association, certainement une partie d'enseignement que j'ai lu, que j'ai étudié, et c'est une autre chose. Que ça passe par un événement historique. Donc, ceux qui n'ont pas assisté à l'événement, eh bien, n'en ont pas le sens, et par conséquent, il faut leur expliquer. Ça, c'est le premier. Je vais lire le verset, parce que vous l'entendez plus finement. Pour relever le contexte, c'est dans un des contextes de l'épisode transcendant Pessah, je relève le verset. Les Yigata les Mitra, et quand tu seras occupé à commémorer Pessah, en particulier par le fait de ne pas manger de Hametz, de manger de Matzah, tout ça nous devons apprendre en détail de quoi il s'agit. Veikata le mitra. Alors tu expliqueras à ton fils, et plus tard, la Mishnah va nous dire il y a 4 sortes de fils, on va se référer précisément à 4 versets qui parlent de cette transmission d'explication au fils. Donc il y a 4 contextes, il y a 4 sortes. Bien. Et vous retiendrez aussi de même qu'il y a 4 sortes de fils, il y a 4 sortes de pères. Et vous retrouvez ce chiffre 4 qui va jouer un très grand rôle dans tout ce qui concerne Pessah. Les 4 enfants, les 4 questions, les 4 verres de vin, les 4 les quatre tout, 74-16. Et le numéro ça aussi. Bon, et on parlera aussi d'un cinquième fils. Alors, Régata Médicra, tu expliqueras à ton fils, on verra ici lequel. Est-ce que c'est le Hacha, est-ce que c'est le... On verra lequel. Rayo Mahou, en ce jour-là, Raymond, en disant, alors je le traduis un peu autrement. Régata Médicra, Rayo Mahou, et tu expliqueras à ton fils, en ce jour-là, les mots, jusqu'à pouvoir lui dire ensuite de quoi on pourrait le dire. C'est-à-dire qu'il y a une explication préalable, de telle sorte que quand tu lui diras ce que tu vas lui dire, il comprenne. C'est clair. Je vais traduire encore autrement. Et tu expliqueras à ton fils, en ce jour-là, jusqu'à pouvoir lui dire, et qu'il comprenne, bravo, c'est pour ça que Dieu a agi avec moi à ma sortie. Est-ce que c'est clair? Qui croit qu'il n'a pas compris?
Pas du tout. L'initiative ici, elle vient du Père.
L'initiative doit venir du Père. Le Père a une mise. Okay. D'autre part, nous verrons qu'il y a un autre verset où la Torah prévoit que l'initiative viendra du Fils. Qui chalcha bitra mahar le mort, quand ton fils t'interrogera demain en te disant, on verra ton verset, t'en entends. Bon, réfléchissez à ma question. Vous avez compris ma lecture de ce verset ou pas? J'aurais pu traduire simplement, tu expliqueras à ton fils en ce jour-là, et si tu vas l'expliquer, tu ne sais pas l'expliquer, je vais te dire comment. Dis-lui ça, va à bourser, c'est pour ça que. Non, cette lecture n'est pas exacte. Il faut comprendre le lémo. Pas dans le but de les mots, jusqu'à ce que tu puisses lui dire cela, en vue de pouvoir lui dire cela et qu'il comprenne. Tu expliqueras jusqu'à ce que, quand tu lui diras ce que tu vas lui dire, il comprenne. C'est-à-dire, l'explication est préalable. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je peux vous dire, au nom des pères, des choses que vous ne comprendriez pas. Alors, il faut d'abord expliquer des tas de choses pour que, quand on vous dira, au nom des pères, les choses que vous dire, vous compreniez. La Torah se met après comme préalable de ce qu'on va citer de la Torah Shabbat. C'est clair? Ça veut dire qu'il faut lui rendre la mémoire.
Ça va durer longtemps. Si on n'arrive pas à avoir l'explication, c'est-à-dire qu'il
ne s'arrête pas. Ça veut dire que c'est pour ça que l'Église va de poser des questions, c'est vrai. Même des questions nouvelles. On n'avait jamais inventé. Et l'Église va d'avoir des questions nouvelles, c'est vrai. Je vais vous en donner une, d'abord. Si vous savez la réponse, envoyez-moi des gars. C'est toutes les mitzvot dont on va chercher. On va faire la mitzvot là, là. On verra qu'elle n'est pas précédée par l'imra. Une question un peu compliquée, mais réfléchie. Alors, je reviens au problème. Ça veut dire qu'il faut d'abord restituer par cette agada, par cette explication, ce récit et explication. Il faut restituer toute la mémoire qui doit nous ramener à ce temps-là, jusqu'à ce que quand le Père dise au Fils, c'est pour ça que Dieu nous a fait sortir, il comprenne. C'est clair? Bon, je voudrais un peu ce sujet au niveau pédagogique. Il y a un des problèmes des éducateurs, quel que soit l'argent, que ce soit les professeurs, les éducateurs, les mouvements de l'air, c'est un problème de scrupule. On a affaire à des enfants, tranquilles, on prend le droit d'être tranquille. Et puis voilà, souvent, on leur pose des problèmes. La Bible, ça existe. Et pas seulement la Bible. Et c'est ça. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Vous voyez que j'ai formulé la question de la santé. Est-ce qu'on a le droit de sortir des enfants, des adolescents, de l'inquiétude de leur jeunesse, de secouer leur vie, pour consommer les problèmes? Vous comprenez? Et c'est voilà, l'institut qu'on pouvait avoir. Qu'on pourrait avoir. Alors la Torah prévoit tout ça, il dit, il y a une mitzvah, il y a une obligation. Parce que le jour où l'enfant, l'adolescent va grandir, et il a besoin des connaissances qu'il faut pour savoir réagir, et il ne les a pas, c'est-à-dire qu'il ne les a pas eu à cause de ses scrupules qu'on a eu pour lui, alors qui est responsable finalement, c'est celui qui lui a réagi. Vous avez compris? S'il y a comme une indication, pourquoi il est important que la Torah nous ait laissé le récit de ce qui s'est passé en ce temps-là avec des détails aussi détaillés? Bon. Première réponse possible, eh bien, qu'on sache le passé, qu'on connaisse le passé. Mais est-ce que ça nous paraît vraisemblable, après près de 4000 ans, un récit pareil, qui a été vécu avec une telle ferveur à travers les siècles et les continents, des histoires pareilles, pour savoir ce qui s'est passé au passé. Qu'est-ce que nos ancêtres ont pris à leur petit déjeuner le soir? Parce qu'il n'avait pas le temps de prendre un temps. Le soir de la santé. Okay. Bon, alors il y en a un postulat, c'est clair? Il y en a un postulat. Qui serait le suivant. Pourquoi il est important de connaître le passé? Parce que ça va recommencer. Et que quand ça recommence, il faut être avec. Alors bien sûr, ça ne recommence jamais dans la même forme. Et vous comprenez ce que je veux dire là tout de suite. L'histoire se répète, c'est pas vrai, elle ne se répète pas exactement de la même manière, mais c'est la même chose qui recommence. Et quand ça recommence, si on n'est pas capable de diagnostiquer ce qui se passe, alors on est perdu. Vous avez compris? Et c'est pourquoi il faut expliquer jusqu'à ce que quand ça recommence sous une autre forme, on reconnaisse que c'est la même chose. Le Bayomao du RC était très fort. Bayomao, ça veut dire en ce jour-là, ça recommencera. Et comment on le traduit, nous, le jour où tu commémoreras, le soir de décembre, en ce jour-là. Le 14 décembre. Okay. Vous avez un peu mieux compris? Mais l'important de
ça. Est-ce que ça veut dire que ça recommence chaque
Pessah? Ça recommence chaque Pessah de façon infinitésimale. À l'échelle, la rien de chaque. Comme je vous l'ai dit pour le. Je ne sais pas si vous avez expliqué ça pour le Tetzaveh. Ce que la Torah nous raconte chaque semaine dans la paracha, nous le vivons dans la semaine, on ne s'en rend pas compte. Mais des fois, on s'en rend compte. Vous comprenez? C'est-à-dire que des fois, les événements sont tels que c'est visible, que c'est ça. Bien. Et là. Bon, ça, c'est à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle de l'histoire, à l'échelle concrète, objective, alors les événements, la fin de l'exil recommence, et puis il est nécessaire d'avoir reçu l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça se passe, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, et vous avez compris l'idée. Vous voyez donc l'importance de cette philosophie. Si on n'a pas parlé du souvenir de la sortie d'Égypte d'année en année, on n'arrivera pas au temps du salut avec, comment dire, l'éclairage qu'il faut. Et vous voyez la responsabilité de cette Agada, si elle est mal faite. On arrive à l'événement et on n'y voit plus rien quand même. Et c'est arrivé. Et vous avez compris qu'il y avait Gatta et pas Ramrémis. Bon, ça va. Et Sipartha. Mais
Sipartha.
Et Sipartha, c'est pas contraire avec un autre mot. Du drastique. Et avec Gatta, c'est plus. Il y a la notion d'explication. Regardez ce qui est arrivé. Je me fais un ridouche sur la ridouche. Ce qui est arrivé avec le Israël, et qu'il a dit dans son langage, en désignant des événements qui étaient les mêmes, et sous d'autres formes, ça recommence. Et puis tous les juifs qui avaient fait la Haggadah pendant des milliers d'années ont dit, rien, on va rien. Alors il leur a dit, si vous voulez, ce ne sera pas une Haggadah. Marquez, pourquoi? Parce qu'entre-temps, le mot de Haggadah avait pris le sens de légende. C'est ça qu'il voulait. Et ça veut dire, si vous voulez, ce sera à la halakha. C'est pas. Avec tous ces invités. Est-ce qu'il y a une halakha que. C'est ça compliqué. Allez, on revient. Donc, il y a d'abord ce premier terme. Que. Dans qu'il s'agit d'événements historiques, il y a une obligation, une mitzvah, d'expliquer à ceux qui n'ont pas assisté. Et regardez à quel point ça va vite. C'est, par exemple, si on se réfère aux persécutions du temps des nazis, déjà il dit, être incrédule. Incrédulité. Déjà ça apparaît comme incrédible, je ne sais pas, on dit ça en sens.
Incroyable,
ça. Incrédible. Bon. Et alors, je me souviens, juste après la guerre, à Paris, un petit comité, c'était surtout des Russes, qui avait décidé de fonder une association pour perpétuer le souvenir de ce qui allait se passer. C'était un certain Scherson, qui est de la famille d'ailleurs du Vivaldi, qui a fondé le monument à Martejou, qu'on connaît en France. Il dit qu'il aurait pu s'appeler le monde juif, ça ne dit rien, ouais, quand le passé est passé, il est passé. Et alors, il s'était heurté à l'opposition de tout le monde, je me rappelle très bien de ça. Parce qu'on disait, ces choses terribles se sont passées, laissez-les tranquilles, on ne peut plus y penser. Il disait, non, vous avez tort, vous verrez, faut absolument regarder tout ça, écrire, rassembler les archives, les films, les photos, tout, il faut le garder. Et aujourd'hui, on en a besoin. Et lui, elle a. Ouais, vous avez compris, effectivement, il y avait une réaction psychologique simple. On en est sorti en aucun temps de parler. Et alors, ça a pu le dévenir à la chaîne, il y a aujourd'hui. Et même avec ça, regardez que le monde entier se demande avec tout, mais c'est Midrashim que les Juifs nous racontent que est-ce que c'est des légendes. Bon, on a retrouvé dans le. J'ai encore que j'ai dit, on devrait continuer les Midrashim concernant ce que les Égyptiens faisaient aux Hébreux juifs en Égypte. C'est des choses inouïes. Alors, on avait tendance à se dire, bon, imagination Midrashim. Imagination orientale. Pas du tout, c'était vrai. Il a fallu que ça recommence pour qu'on voit qu'effectivement ça peut que ça peut arriver. Comprenez le problème. Bon. Alors, ça s'est renforcé par la fin du verset. Par vous et à ça, Hachem li, et c'est inimitraï, quand moi je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire, c'est le Père qui est sorti d'Égypte. Et il doit expliquer au Fils qui lui n'est pas sorti. Mais quel est le Père? Ça c'est le plan de l'université. Quel est le problème? C'est que la cérémonie de commémoration du soir de Pessah doit nous ramener à l'événement qui s'est passé. Je veux dire, il y a toute une épaisseur de temps qu'il faut remonter, de sorte de se situer à la première génération qui n'est pas sortie d'Égypte et entendre le récit de celle qui est sortie. Vous avez compris ce qui doit se passer dans la cérémonie. Si on n'est pas à ce niveau-là, ça passe plus. Vous avez vraiment de livres qui paraissent aujourd'hui, des gens qui racontent le souvenir de l'armée juive, etc. Et ils ont raconté avec émotion cette soirée de Pessah. En général, ils l'appellent la soirée Pascal, pour faire bien en français. Et ils lui racontent que quand ils étaient enfants, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, tout simplement. Et alors effectivement, ça va passer dans le jeu. Parce qu'ils n'ont pas compris. On va pas comprendre. Mais d'ailleurs, dans la Gola, on avait l'habitude, le deuxième soir, de traduire la Haggadah dans la langue qu'on parlait. Seulement, comme on a parlé successivement beaucoup de langues, on finissait par piéter, par traduire dans une langue qu'on ne comprenait plus. C'était soit en yiddish, soit en espagnol, soit en arabe. Alors qu'on parlait français. Et on se rendait compte que la Gada en français, c'est pas sacré. En arabe, c'est sacré. Mais l'arabe n'en apprenait plus. Alors on ajoutait des incompréhensions sur des incompréhensions. Et finalement, on a fait le coup. Et nous avons encore maintenant dans des familles, par exemple, c'est sacré de traduire en espagnol. Mais qui comprend l'espagnol? La raison. Alors, voyez la chance que vous avez de pouvoir un jour comprendre en hébreu, même quand ça n'a rien. Bien. Alors, maintenant, il me reste un morceau du verset à traduire. Veigatal min travaillera où? Et tu expliqueras, tu raconteras jusqu'à ce qu'ils comprennent. En ce jour-là, les mots disent Varou, Zé, c'est pour cela. Cela quoi? Et on va désigner ce qu'il y a sur le plateau du Seigneur, c'est-à-dire la Matza et le Varou. Le repas qui commémore le repas de la sortie d'Égypte. C'est pour cela que Dieu a agi pour moi, Betseti Mitzrayim, lorsque je suis moi sorti de l'Égypte. Voilà une première lecture de ce verset dont nous avons besoin d'aller par la suite. Bon, alors là, pour le mot de Haggadah. Vous avez des questions là-dessus? Oui.
Là, on a vu qu'il y avait à Yonahou, un peu plus haut, Moshe dit au peuple, le discours était rasé.
Quel verset?
On a vu dans le verset 8, à Yonahou.
Et au verset 3, il y a
Zahor. Au verset 3, à Yonahou.
Non, ce n'est pas Bayon Mazé. Zahor et Bayon Mazé. Bon, je vais expliquer. Je vais bien. Bon, regardez. Finalement, nous avons, par ce biais-là, je vais faire encore allusion à une des mitzvot principales de Pessah comme commémoration de Pessah. Ça veut dire que ce mot de Pessah va prendre deux sens différents. D'abord, il a le sens de l'événement qui s'est passé telle année en Égypte et qui a permis la sortie du peuple de l'Égypte et la constitution de la nation d'Israël. Ce Pessah-là s'appelle Pessah des Mitzrayim. On pourrait dire chez les Mitzrayim, mais on a l'habitude de le dire en araméen. Pessah des Mitzrayim, c'est-à-dire le Pessah d'Égypte. C'est-à-dire le Pessah qui s'est passé, qui s'est produit dans l'événement en Égypte même. Okay? Et ensuite, il y a tout de suite après, on voit que la Torah nous donne des mitzvot de commémorer ce Pessah. Et on l'appelle Pessah Shel Dorot. Ça veut dire Pessah Shel Dorot, le Pessah des générations. Alors là, il y a un point important. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour le Pessah de Mitzrayim, un événement historique qui s'est passé et qui nous sert de référence, d'expérience. Qu'est-ce que c'est Pessah ? Ça s'est passé, je sais. Bon. Et puis on nous demande tout de suite de le commémorer. Que représente ce fait que nous demande de le commémorer ? Et la commémoration de Pessah de Mitzrayim qui a eu lieu une fois, et vous lirez les versets qui concernent les mitzvot pour le Pessah de Mitzrayim, pour l'événement de passage de ce jour-là, et les mitzvot qui concernent la manière dont il faut le commémorer, jusque au moment où il sera accompli. Bon, je vais vous donner presque la réponse. Que signifie le fait qu'il faille le commémorer ? En plus, je vais parler de ça un peu au début de l'année, en parlant de Zecher Yetziat Mitzrayim comme début de la prière, en référence à la prière. Je posais la question autrement. Tout se passe comme si nous avons considéré que l'histoire d'Israël commence dans sa signification profonde à la sortie d'Égypte. Et pourquoi on considérerait pas qu'elle commence à la sortie d'Abraham dans le cas de l'événement lui-même, mais c'est le commencement de la nation d'Abraham. Enfin, c'est le commencement de notre histoire. Nous n'avons pas parlé de ça au début de l'année ?
Si.
Alors, quelle est la réponse ? Il y a plusieurs, je vous ai donné plusieurs réponses, mais j'en attends une qui vous convainc.
Vous faites l'événement historique avec le nouveau collectif ?
Bon, ça c'est important. Et il y a une autre réponse corollaire. C'est que la sortie d'Abraham d'Okazdim est irréversible. Elle a réussi. On n'a plus à la commémorer. C'est un avoir qui est devenu de l'être. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. C'est un acte, un comportement, un fait qui est devenu de l'être. En tant qu'Abraham, je suis sorti d'Okazdim de façon irréversible. Ah, je n'ai pas commémoré. Et le signe que ça a été irréversible, c'est qu'on ne me demande pas de commémorer. De toute façon, je sais qu'on ne me demande pas de commémorer un événement qui concerne un individu et non pas la collective. Parce qu'il y a le danger de l'idolâtrie. Vous rappelez de ça bon. Mais d'une certaine manière, on aurait marqué le coup. Mais il n'y a pas de trace dans le calendrier de Kabbaliste. Il n'y a pas de trace dans le calendrier qu'on va parler un jour, mais c'était aujourd'hui, il y a X temps qu'Abraham est sorti d'Okazdim. Pourtant, c'est très important. Si Abraham n'était pas sorti d'Okazdim, il aurait pas eu la suite. Oui, mais voilà, la suite, ça commence à la sortie d'Égypte de la nation. Ok ? Donc voilà, on me demande de commémorer. Tout de suite, c'est une surprise, il faut commémorer. Ça veut dire que ce n'est pas haché. C'est vrai ? Et ça veut dire que commémoration, ça signifie à chaque mois.
Je commémore aussi chaque mois. C'est quelque chose de...
Mais attends, là, il y a un cas particulier. Parce que nous n'avons pas de mitzvah dans la Torah de commémorer le nom de Dieu. Nous savons par le récit que c'est ce jour-là. Mais il n'y a pas de mitzvah que le 6 Sivan, il faut commémorer. Ça, on est du rapport pour ce jour. Là, il y a un cas particulier. Mais c'est vrai pour tout. Parce que j'ai commémoré. Dans le monde tel que nous sommes, il y a un petit peu de Shabbat. Alors il faut commémorer le Shabbat de Brigitte Paul, le Shabbat de la fin de Ramadan. Il faut le faire. La rassure de ça. C'est la même chose. Quand vous avez Zahor, ça veut dire faire rentrer plus dans le temps, dans l'espace, ce qui a eu lieu déjà mais pas en permanence. Je veux dire, faire attention au verbe, ici vous ne travaillez pas au mot parce que c'est la lettre, mais quand il vient. La sortie d'Égypte comme événement irréversible, mais c'est un événement inachevé. Il faut arriver à la véritable sortie d'Égypte de la Bible, de la fin des temps, mais nous avons le modèle. Ça aurait pu être une sortie d'Égypte réussie. Et nous n'aurons pas la commémorer, on serait déjà par là. Et nous avons un Midrash qui nous dit qu'à partir de la sortie d'Égypte, on rentrait dans un temps messianique. Tous les malades guérissaient, et les morts se préparaient à ressusciter, etc., etc. Et puis il y a eu la faute. Alors, ça commence. Mais qu'effectivement, en principe, la sortie d'Égypte aurait pu être la fin d'Aaron la basée pour entrer dans Aaron la montagne. Ça a échoué. Mais ça a échoué quoi? Ce qui s'est passé est irréversible, indélébile, mais c'est qu'un point de départ. Et c'est un commencement pour la Géoula de la fin. Ça va jusque-là? Alors, c'est important de comprendre que le fait que la Torah nous donne des mitzvot pour commémorer l'événement de la sortie d'Égypte, ça devrait nous étonner d'abord. Ça doit nous étonner. Alors, ça veut dire qu'il faut le réaliser de plus en plus, ce Pessah, jusqu'à ce qu'il se réalise. Zachor, c'est pas un acte passif de se souvenir que jadis il est arrivé, s'il est arrivé. Zachor, c'est rendre présent ce qui s'est passé au passé.
C'est pour ça qu'il est la première personne du Metzel qui m'a sorti à moi, qui t'a pas sorti à toi. Et
pour... Ça, je préférais que tu rattaches à l'explication précédente. Okay. C'est le père qui parle au fils. C'est pourquoi il dit Metzeti. Et quand il va lui expliquer ce que c'est, et que l'enfant va prendre sur lui cette histoire, alors il doit se considérer comme si c'était lui l'enfant qui était sorti d'Égypte. Ça, c'est le second lui. Il faut d'abord qu'il sache à quoi il adhère. C'était un enseignement du Rakhon à ce sujet. À propos des quatre enfants de Pessah, vous êtes déjà habitué à cela. Il y a un Hacham, un Racha, un Racham, un Chevré, un Rachat. Et alors, à propos du Racha, pourquoi cet enfant se révolte? D'abord, on a posé la question, dans quelle famille il y a quatre enfants comme ça? On m'a répondu, j'ai expliqué un jour, dans toutes les familles, il y a quatre possibilités d'enfants comme ça. Il y en a un qui est déjà dans la famille d'Abraham, c'est ça, je vous donnerai le père. Tahacham, c'est Isaac. C'est bon, Pessah, qu'est-ce que c'est? Un sacrifice, un sacrifice chiffré. C'est un Tahacham, Isaac. Racha, c'est Isaïe. Ça, on ne veut pas qu'il y ait encore l'histoire de Isaïe. Esaü, je dis, Ménès, Proténès, compliqué, Torah, je ne peux pas. Ça, c'est Esaü, Racha. Tam, c'est Yaakov. Oui, c'est mon histoire. Je parle. Et chez Noël de Richel, celui qui ne sait pas parler. Vous verrez qu'il y en a un, la famille d'Abraham, je ne parle jamais, c'est chiffré. Il va pas le parler, vous savez. Donc ça veut dire qu'il y a ici une typologie importante et qui a sa racine et qui a sa racine dans quelque chose d'important. Bon, mais dis qu'on rappelle à une œuvre. Il y a un élément positif. Parce que bon, qu'est-ce que demande l'enfant à son père? Je ne sais pas si je vais citer dans la vie. Il demande, à travers tout cela, un modèle, la question de l'enfant à son père. Quand un enfant interroge son père, si vous lui demandez quoi? Ben, qu'est-ce que j'ai à faire dans la vie? Et qu'est-ce que le père répond? Eh ben, tu seras avocat, tu seras ingénieur. Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé. D'où le bon? Vous avez compris? Et c'est le problème des mouvements de jeunesse. Le mouvement de jeunesse n'existe comme signe d'une révolte des enfants contre les parents. Et on cherche un milieu quelque part pour avoir la réponse que les parents vont nous donner. C'est-à-dire, si le mouvement de jeunesse n'est pas un mouvement révolutionnaire, dans le sens strict, c'est pas un mouvement de jeunesse. C'est une association de pêcheurs à la vie. Mais, et au fond, c'est ça. Et ici, la Torah prévoit qu'on va fonder les mouvements de jeunesse. Et quand ton fils t'interrogera, interroger, ça veut dire interpeller, il va dire, Et ici, les maisons de Messère, ça représente l'histoire juive. Alors l'enfant s'étonne et demande qu'est-ce que c'est ça ? De quoi il s'agit ? Dans quoi je suis né ? Etc. Alors, il faut que le père explique. Et vous avez compris. Donc, est-ce qu'il y a une autre question ?
Pourquoi on ne dit pas dans la Bible Shamor, comme on parle du Shabbat, dans la fois. Au Shabbat, on dit une fois Zahor, une fois Shamor, une fois tous les deux. Et ici, dans la Gala, on dit aucunement Shamor, on dit Zahor.
Non, non, tu ne connais pas tous les versets. Il y a Ushmarte et Metamatsot. Tu le trouves à l'heure.
Ah oui.
Non, mais quoi que la question n'est pas une bateau. Bon. Il n'y a pas d'autres problèmes là-dessus. Alors, rappelez-vous ces deux expressions. Pessah chez Israël. Et nous verrons les versets de Pessah en Israël. C'est le chapitre 12 de la Genèse. À côté de la paix. Et ensuite, Pessah chez le monde. Alors, ça, c'est les mitzvot pour la commémoration. Mais c'est bien ce fait. La commémoration, ça implique que l'événement n'est pas achevé. Ok ? Bon, qu'est-ce que tu veux ?
Tu viens de dire que l'événement de la sortie de la drame est achevé. Comment ça se fait que tu réalises de la mention ?
Non, ça, c'est une commémoration en tant que, pour moi, elle est achevée. Je l'ai indiqué. Le calendrier kabbaliste porte un niveau individuel, un niveau objectif de la collectivité, et à quel niveau il y a aussi le calcul d'autres. Bien. Donc, quel est le déjà ? Bien. Bon, je vais. Il faut que j'attende que vous ayez vos livres, si vous le savez dans les points, donc on aura encore d'autres questions de commentaires.
Pessah, à part Pessah,
non, alors maintenant, j'arrive au mot de Pessah. Et donc, je vais vous donner un verset. Le dévoilement quand il devait se faire en Égypte, aider, sommet la civilisation de ce temps, c'est qu'au-delà des lois de la nature, considérées comme la divinité ultime, et un peu dans le temps contemporain, c'est l'idée du déterminisme. Précisément à des moments privilégiés où ce déterminisme doit jouer, et ces moments seraient liés aux événements de la religion astrologique de ce temps-là, eh bien, se dévoile une volonté libre qui dirige le monde. Et le thème que je vais vous expliquer est le suivant. S'il y avait un objectif du point de vue d'une mission éventuelle des Hébreux en Égypte, ça aurait été de dévoiler cette idée, je veux dire de témoigner de ce principe qui est la tradition des patriarches d'avoir redécouvert Abraham dans la civilisation du temps. C'est-à-dire qu'au-delà et au-dessus du déterminisme des lois naturelles qui étaient adorées en tant que divinité astrologique par les religions de ce temps-là, il y avait un salut possible parce qu'il y a une volonté libre qui dirige le monde. Or, finalement, le passage des Hébreux en Égypte n'a pas réussi à faire dévoiler cela aux Égyptiens, à l'humanité de ce temps. Alors ça va se faire à travers les diplomaties. Et de plus en plus, les Égyptiens dévoilent, découvrent que ce qui intervient dans le plaies, c'est une volonté intelligente, et non pas un fonctionnement impersonnel de mécanisme déterminé. Puisque de plus en plus, ils perçoivent la distinction que la plaie va faire entre les Hébreux et les Égyptiens. Or, les Hébreux et les Égyptiens étaient mélangés. Même si le roi des Hébreux était dans un ghetto. Et plus que ça, à la fin, c'est là que va se dévoiler qu'effectivement, ce dont les prophètes hébreux parlent, Moïse, Aaron, en ce temps-là, c'est vrai qu'il y a Hachem au-delà des dieux, dans le sens des divinités païennes, va se dévoiler au moment de la plaie, de la mort du premier. Parce que même à l'intérieur des Égyptiens qui sont frappés, voilà que la plaie fait une distinction entre le premier-né et les autres, vous le savez. Vous comprenez ce qui se dévoile. Alors là, c'est une panique à celui qui prend l'Égypte. Et du dedans de cette panique, les Hébreux peuvent profiter pour se sauver, littéralement. Il y a eu un petit moment de grâce, je veux dire, on les a reconnus comme étant les porteurs d'une vérité au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, on leur a donné tous les cadeaux possibles et imaginables en leur disant les malheurs. Après, cette panique s'est un peu calmée, alors on s'est ravisé, on est allé les rechercher, parce qu'on a besoin des spécialistes de l'économie, qui va tenir le commerce. Qui va être conseiller du président. Et finalement, l'événement est relié au fait que Dieu, intervenant en Égypte, va engendrer, passer au-dessus les besoins de Dieu. Lesquels ? Celles qui s'étaient identifiées en mettant à la porte de leur maison le sang du Seigneur.